Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 4 novembre 2022. On se croirait pas en novembre. En tout cas, ici, au Québec, au Canada, je pense qu'il annonce 23 degrés Celsius demain, samedi. On va être le 5 novembre. On a déjà vu de la neige ici, les 5 novembre, dans le passé. Mais comme toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer durant la semaine. Beaucoup de choses cette semaine qui tournent toujours alentour du même monsieur, hein? Toujours l'homme le plus riche. Hein? Qu'est-ce que ça fait faire l'argent? Mais c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe. J'espère que ça va bien. Et on commence tout de suite avec la première actualité, tiens. Ouais, il y a l'Europe qui va essayer de contraindre Apple à adopter le fameux RCS, qui est un protocole poussé pour Google pour les messages texte et tout ça, pour, dans le fond, un petit peu concurrencer iMessage d'Apple. Et puis les App Store alternatifs, comme on sait, ben Apple, ils ont leur propre magasin d'applications et c'est très fermé. Des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça. Mais ils ont toujours imposé à Apple de nombreuses restrictions aux utilisateurs. iMessage ne fonctionne par exemple qu'entre iPhone, tandis que les utilisateurs ne peuvent que télécharger des applications sur le magasin officiel d'Apple. Exactement. Mais ça pourrait changer à l'avenir car la loi européenne sur les marchés numériques est entrée en vigueur. Bien que des entreprises comme Apple ne soient pas obligées de s'y conformer immédiatement, mais la loi pourrait obliger Apple à abattre les murs de son écosystème et à permettre aux utilisateurs d'iOS d'accéder à des magasins d'applications tiers et même de sideloader des logiciels. Sideloader, le principe de prendre un fichier avec le programme, le logiciel, l'application et le télécharger, téléverser dans le téléphone avec une méthode pour installer une application sans passer par l'App Store. J'ai bien hâte de voir ça. Mais selon la loi sur les marchés numériques, les fabricants de smartphones devront autoriser les utilisateurs à installer des magasins d'applications tiers. Cela permettrait, par exemple, aux propriétaires d'iPhone d'installer le Google Play Store sur leur appareil et de télécharger des applications dessus. Apple devrait également devoir accepter l'installation d'applications en dehors des boutiques officielles, c'est-à-dire via les APK. C'est ce que je parlais, les fameux fichiers, les fichiers APK. Cette technique appelée sideloading est depuis toujours considérée comme un danger pour Apple. Le géant américain recommande d'ailleurs ouvertement Android si vous voulez vous adonner à telle pratique. Ça fonctionne très bien sur Android, mais il y a toujours un danger. Tu sais, il y a des pour et des contre. L'un des autres nouveaux ajouts à la loi qui exige l'interopérabilité des services de messagerie, d'appel vocal et d'appel vidéo. Ça signifie que d'autres entreprises peuvent demander l'interopérabilité d'iMessage d'Apple, ce qui pourrait obliger Apple à jouer le jeu avec les messages RCS. Bon, là, les entreprises ont jusqu'au 2 mai 2023 pour apporter des changements afin d'éviter d'être désignées comme « gatekeeper ». Les gatekeepers, c'est des entreprises comme Apple qui ont une taille suffisante pour avoir un impact sur l'ensemble du marché. Ils doivent également contrôler une passerelle importante pour les entreprises qui tentent d'atteindre les consommateurs. L'entreprise doit occuper aussi une position solide et durable, c'est-à-dire avoir rempli des deux premiers critères depuis au moins 3 ans. Alors, l'Union européenne procédera à une évaluation du marché en juillet. Le nom des gatekeepers, sûrement Apple va en faire partie, sera annoncé le 6 septembre 2023. Il leur sera demandé de se conformer aux directives de la DMA d'ici le 6 mars 2024. Apple se font brasser pas mal en Europe. Si les entreprises contrevenantes ne le font pas, elles s'exposent à des amendes. Les amendes pourraient correspondre à 10% de leur chiffre d'affaires mondial, ce qui pour Apple représenterait environ 30 milliards de dollars. Il s'agirait donc de la plus grosse amende jamais imposée à une entreprise par un gouvernement mondial. Instagram lance une nouvelle interface sur PC. Allez la voir, c'est instagram.com. C'est très simple. Si vous ne saviez pas, vous pouvez accéder à Instagram directement sur votre navigateur. Ben, il lance une nouvelle interface à la manière de Twitter et de TikTok. Pour améliorer votre navigation. J'ai vu l'interface, je trouve pas que ça ressemble à Twitter ou à TikTok. Mais la nouvelle interface propose désormais une barre latérale à gauche de votre écran qui inclut des liens vers les menus de recherche, l'option « Découvrir », les messages, les notifications et la création de posts. Parmi les modifications incluses dans cette nouvelle interface, celle pour changer de compte. On peut changer de compte, vous avez plusieurs comptes. C'est depuis le bouton « Plus » situé en bas du menu que vous pouvez alterner avec vos différents comptes Instagram. Sur la version précédente, cette fonctionnalité se situait sous votre photo de profil. Ah. En cliquant sur ce même bouton, vous accédez également aux paramètres et à vos publications enregistrées. Vous pouvez aussi signaler un problème sur la plateforme où vous êtes connecté. Un autre changement visible pour certains utilisateurs, et je dis certains parce que je l'ai testé et ce n'est pas visible pour moi, les stories maintenant apparaissent désormais à droite de votre écran. Moi, j'ai vu les stories sont toujours en haut de la page, de la page d'accueil ou du fil d'Instagram. Amazon Prime qui va augmenter son offre musicale. Ah! Il s'agit certainement d'une grosse annonce à destination des abonnés de Prime, Amazon Prime. Si vous êtes abonné, là, vous avez des livraisons, vous commandez sur Amazon. Prime inclut plein de choses. Donc, Prime Vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à des créateurs de contenu sur Twitch avec votre abonnement Prime. Moi, je le fais souvent. Je vais aller m'abonner à des personnes différentes. À chaque mois, on a le droit de prendre notre abonnement. Ça ne coûte pas des sous, c'est inclus dans l'abonnement. Désormais, ils pourront accéder à pas moins de 100 millions de chansons. Hein? Ça représente un véritable bond en avant, car Amazon Music ne proposait jusque-là que 2 millions de chansons. Alors maintenant, c'est 100 millions. Il faut souligner que cette mise à jour conservera bien évidemment tous les avantages traditionnels comme la suppression de la publicité. Néanmoins, quelques insuffisances devront persister. Ça, je trouve ça dommage, mais il sera toujours pas possible pour les abonnés de Prime de choisir les chansons qu'ils désirent écouter. Et ces derniers devront plutôt choisir parmi des listes de lectures sélectionnées, okay, et ainsi découvrir un mix de musique de leurs artistes et albums préférés. Mais ça peut faire le travail aussi. L'application mobile fera également peau neuve. Au menu des nouveautés de cette mise à jour, nous avons la possibilité pour les utilisateurs d'accéder aux aperçus des podcasts. Il faut savoir que cette fonction d'aperçu des podcasts permettra aux abonnés d'écouter de courts extraits d'épisodes de podcasts. À l'évidence, cela facilitera leur découverte de nouvelles émissions. Il ne sera donc plus utile de suivre une grande partie de l'émission pour juger si l'on est intéressé ou pas. En choisissant d'offrir plus de contenu tout en ne révisant pas la somme à débourser par l'utilisateur, Amazon Music devrait marquer incontestablement un gros coup. Ces millions d'utilisateurs s'en réjouiront, hein? Ils pourront ainsi profiter de cette nouvelle offre en effectuant la mise à jour de l'application Amazon Music dans leur store. Netflix, tarif réduit, c'est à partir d'aujourd'hui. Hein? À partir d'aujourd'hui. Ben, ça a été annoncé il y a plusieurs semaines. La nouvelle offre avec publicité de Netflix est lancée à 17h ce jeudi 3 novembre. Mais je pense que là, il parle de la France aussi, il inclut la France, parce que l'abonnement sera le plus bas proposé par la plateforme. Donc, dès ce jeudi 3 novembre, la plateforme lance son abonnement essentiel avec pub dans une dizaine de pays, dont la France. En passant, le Canada et le Mexique en profitent depuis le 1er novembre. Bon, ça a été un petit peu à l'avance. Mais en France, c'est au tarif de 5,99€, à peu près 6€ par mois. En échange de ce tarif plus accessible, il faudra supporter quelques minutes de publicité pour chaque heure visionnée. Alors désormais, vous avez le choix entre 4 forfaits Netflix pour donc à peu près 6€. Voici les principales caractéristiques de l'offre. Vous aurez accès à l'offre la moins chère de Netflix. Bon, c'est la première offre. La plateforme diffusera en moyenne 4 minutes de pub par heure de visionnage, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, si on dit à toutes les 15 minutes, il y aurait une minute de pub. J'imagine qu'il va en avoir au début, à la fin, dans le milieu, c'est normal. La qualité sera limitée à la HD jusqu'à 720p. Au contraire des autres offres, il n'est pas possible de télécharger des titres pour un visionnage. Visionnement. C'est peut-être un mot. Hors connexion. Les jeux mobiles restent accessibles en illimité et seront dispensés de publicité. Il y a à noter que certains films et séries ne seront pas accessibles en raison des restrictions imposées par les licences. Et concernant ces films et séries, Netflix explique qu'ils seront identifiables à l'aide d'une icône de cadenas qui s'affichera au moment de votre recherche. Bon, là, on se lance dans la partie Twitter, OK? il va y avoir quatre actualités. Mais là, on commence par le nouveau produit qui est lancé par le fondateur Jack Dorsey, celui qui a créé Twitter. Il lance Blue Sky Social, qui serait une alternative à Twitter. Alors, quelques jours avant qu'Elon Musk ne s'empare de Twitter, Jack Dorsey a levé le voile sur un nouveau réseau social, Blue Sky Social. Le fondateur de Twitter, qui a quitté l'entreprise en novembre dernier, travaille sur le projet depuis plus de 3 ans. Ça a été en grosse partie financé par Twitter. Pour le moment, la plateforme est uniquement proposée en version bêta. En l'espace de 2 jours, Blue Sky a enregistré plus de 30 000 inscriptions sur la liste d'attente. Je vais mettre le lien d'ailleurs pour si vous voulez faire partie de cette bêta-là dans la documentation de l'émission. Comme Mastodon, le réseau social séduit vraisemblablement les internautes inquiets par la prise de pouvoir d'Elon Musk sur Twitter. Alors, Jack Dorsey décrit Blue Sky comme un réseau social fédéré, un peu à la Mastodon. La plateforme s'appuie sur le protocole AT, protocole de transfert authentifié, qui combine les idées des dernières technologies décentralisées dans un réseau simple, rapide et ouvert. Donc, c'est un peu comme un réseau fédéré, mais amélioré selon M. Dorsey. Il s'agit d'un protocole ouvert. Il n'appartient pas aux dirigeants de Blue Sky. Alors concrètement, AT est une norme commune qui permet à une quantité illimitée de services différents de fonctionner entre eux. Donc les équipes de Blue Sky mettent l'accent sur l'interopérabilité entre les différents espaces numériques. En s'appuyant sur cette norme commune, alors un internaute pourra choisir de mettre sur pied son propre réseau social. C'est le principe décentralisé. Les utilisateurs de Blue Sky seront libres de passer d'un monde à un autre sans restriction. De ce côté-là, Blue Sky se rapproche un peu du fonctionnement de Mastodon. Le réseau social allemand se compose en effet d'une infinité de serveurs décentralisés. L'initiative de Jack Dorsey va plus loin en proposant aux internautes de concevoir leur réseau social en s'appuyant sur un hébergeur ou par ses propres moyens. Contrairement aux plateformes phares du web 2.0 comme Facebook, Twitter, Blue Sky laissera à l'utilisateur le contrôle complet de ses données personnelles. Chaque usager disposera d'une identité numérique dont il est le seul détenteur. Cette identité pourra être transférée d'une plateforme à une autre sans la moindre limite imposée par une identité centrale. De cette façon, l'utilisateur ne sera pas contraint de se plier aux règles d'un réseau social. Il sera libre d'exporter ses données n'importe où. Les internautes ont également le contrôle des algorithmes de recommandation de contenu. L'utilisateur pourra choisir librement comment les informations seront affichées à son écran. Il n'y a aucune date de lancement qui a été divulguée. Sur son site, Blue Sky s'est engagé à ouvrir la bêta, une application mobile indispensable à l'ère du smartphone devrait également voir le jour d'ici peu. Alors, à suivre. Twitter, qu'est-ce qui se passe avec Twitter? On va faire ça un petit peu rapide. En début de semaine, ben, M. Musk a dit « OK, bon, là, je prends le contrôle. Je veux que les utilisateurs qui ont la fameuse petite batch de certification, je veux maintenant que ça soit payant, puis ça coûte comme 20$, puis tout ça. 20$ par mois mensuel. Mais ça faisait seulement 48 heures qu'il était officiellement le propriétaire. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le patron de Tesla ne perd pas de temps pour bouleverser les habitudes des utilisateurs du réseau social et pas forcément en bien. La dernière décision complètement farfelue, c'est de rendre payant les fameux batchs certifiés de la plateforme. Est-ce que c'est vraiment farfelu? Je ne sais pas. Moi, je pense que les batchs, c'est farfelu, mais bon, c'est mon opinion. Deux jours seulement après l'officialisation du rachat, un premier ultimatum est en place pour les employés de Twitter avec des menaces de licenciement. On va en parler tantôt. Elon Musk aurait ainsi ordonné l'activation de nouvelles options pour Twitter Blue, qui est un service payant. Le système d'abonnement payant à 4 ou 5 $ par mois américain, qui donne accès à des fonctionnalités comme l'édition des tweets. Apparemment, Elon Musk souhaite faire passer l'abonnement à 20 $ par mois et offrir la possibilité aux utilisateurs d'être certifiés. Les employés qui travaillent sur cette fonctionnalité ont été informés hier qu'ils ont jusqu'au 7 novembre, ça on parle de cette semaine, c'est un article de cette semaine, qu'ils avaient jusqu'au 7 novembre prochain pour mettre en place. Si cette échéance n'était pas respectée, ils seraient licenciés. Des menaces. Au cours des derniers mois, Musk n'a pas caché son intention de faire évoluer Twitter afin de revoir la manière dont le réseau est géré, que ce soit pour le système de vérification de comptes, la gestion des bots ou encore de la liberté d'expression. Musk souhaite également faire croître les abonnements jusqu'à ce qu'ils représentent la moitié des revenus globaux de l'entreprise. Mais bon, le 20 $ c'était en début, cette actualité-là était en début de semaine. Maintenant, c'est, je pense que c'est rendu à 8 $ pour avoir une certification. Et je crois qu'il veut enlever, ou il a enlevé, certains avantages dans l'abonnement Twitter Blue, où on avait des articles sans publicité. Et là, il a dit, ah, vous payez pour avoir des articles sans publicité. Mais moi, je dis que Twitter Blue, à 5 $ par mois, vous allez avoir des publicités. Alors, je pense qu'il a envoyé un courriel aux gens qui étaient abonnés, puis c'est lui qui décide, M. Musk. Toujours M. Musk, hein? Il songe à relancer l'application Vine, qui est une ancienne application mobile qui permettait de partager de courtes vidéos de 6 secondes. C'était bien cette application-là, on pouvait faire des petits montages. Son équipe a demandé aux ingénieurs de Twitter de jeter un coup d'œil au code de Vine. Vine, V-I-N-E, pour voir s'il était faisable de relancer la plateforme. Le problème, c'est que, bon, ça a été créé en 2012 avant d'être racheté par Twitter. Vine s'était rapidement imposé sur le marché des applications gratuites de partage de vidéos. Néanmoins, la concurrence était particulièrement rude avec Facebook, Instagram ou encore avec Snapchat. Alors, l'application Vine a finalement été fermée par Twitter en 2016. Là, Elon, il est mélancolique. Il veut peut-être ressusciter cette application-là. Alors, selon un nouveau rapport, l'équipe d'Elon Musk a effectivement demandé aux ingénieurs de Twitter de jeter un coup d'œil au code. Les ingénieurs doivent déterminer la quantité de travail nécessaire pour faire renaître le service de partage de courtes vidéos. Elon Musk a aussi posté un sondage sur Twitter pour demander aux internautes s'ils veulent voir le retour de Vine. Je pense que c'est plus lui qui veut le voir, le retour de Vine. Alors, plusieurs sources ont confirmé que la nouvelle version de Vine pourrait être lancée d'ici la fin de l'année. Ça paraît évidemment ambitieux pour une application dont le code remonte à plus de 6 ans. Il y a même l'ancienne directrice des produits chez Twitter, Sarah Bakepour, qui a même tweeté « Quelques conseils gratuits de la part de quelqu'un qui a travaillé chez Vine et a également dirigé la fermeture de Vine. Ce code a plus de 6 ans, code de programmation. Une partie a même plus de 10 ans. » Vous ne voulez pas vous pencher là-dessus en voulant dire « faites pas ça ». Si vous voulez faire revivre Vine, vous devrez recommencer du début. Ce n'est évidemment pas la seule personne à penser que Vine ne peut pas être ressuscité à partir de son ancien code. Et aussi, bon, aujourd'hui, on a plein de concurrents. Exemple TikTok.
Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
On parle de Mastodon. On en a parlé beaucoup cette semaine. Il y a beaucoup de personnes qui... Bon, il y a des personnes qui ont peur un peu de ce qui se passe sur Twitter. Faut pas paniquer. Twitter, ça reste quand même une belle application, selon moi. En tout cas, moi, je m'en sers beaucoup comme fil de nouvelles. Mais il y a une forte migration. Et j'ai connu cette migration-là il y a ça quelques années. Twitter avait décidé de changer l'algorithme du fil d'actualité. Il voulait que ce soit plus nécessairement chronologique et les gens n'ont pas adoré et ont décidé de migrer vers Mastodon. J'avais été voir qu'est-ce que ça donnait. Je pense que dans ce temps-là, c'était un petit peu moins mature. Mais qu'est-ce que Mastodon? Ça a été créé en 2016 par Eugene Rocco, un programmeur allemand insatisfait de Twitter. Donc, Mastodon ressemble en tout point au réseau social bien connu, du moins en apparence. On retrouve ainsi une plateforme de micro-blogging avec de courts messages, des sondages, mais aussi du contenu multimédia. Certains noms et options changent toutefois. Alors, avec des tweets appelés des pouettes. Alors, un tweet dans Twitter sur Mastodon, c'est des pouettes ou des toots. Selon l'utilisateur, et des publications limitées à environ 500 caractères. Ça, c'est bien. C'est un système décentralisé. Les néo-mastonautes, c'est le nom donné aux utilisateurs de Mastodon, néo-mastonautes, doivent cependant s'adapter au fonctionnement bien particulier de la plateforme. Mastodon est en effet un logiciel faisant partie du fait divers. Hein? Pas du fait divers, mais oui, fait divers. Ce terme un peu fantaisiste désigne un système décentralisé de réseaux sociaux en open source. Cette parenthèse, il existe plein de petits réseaux comme ça, décentralisés, pour Instagram, une alternative à Instagram, alternative à Facebook. Bref, ça, je vais rajouter ça aussi dans les liens de l'émission. De manière plus explicite, cela signifie que dans les différentes entités, que les différentes entités sont interconnectées, mais pas dépendantes d'une seule grosse entreprise. Ainsi, on retrouve Mastodon. Sur Mastodon, des instances, on appelle ça des instances ou des serveurs, peu importe, c'est-à-dire des serveurs indépendants qui interagissent entre eux, mais ont des fonctionnements différents. Lors de son inscription sur Mastodon, on peut en effet choisir une instance en fonction de ses centres d'intérêt. Exemple, ça peut être une instance sur le gaming, sur l'art, sur la gastronomie. Ces instances auront chacune leurs règles de base précises, ainsi que leur propre système de modération. Jugé d'ailleurs beaucoup plus efficace que sur Twitter. Certaines instances recensent quelques dizaines ou centaines de mastonautes, quand d'autres peuvent regrouper plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Le principe, c'est pas nécessairement d'aller dans une grosse instance, parce que ça peut être un problème de performance, mais on choisit une instance selon nos... Et on peut migrer par la suite. Il n'y a pas que Mastodon dans le fait divers. Il y a PeerTube. PeerTube, qui pourra servir aux internautes voulant se passer des services de YouTube. Il y a aussi Pixel Fed, sera quant à lui une alternative aux personnes voulant quitter Instagram. Il y en a un autre pour Facebook. Comme je dis, je vais mettre le lien. Le gros avantage du fait divers sont surtout l'absence de publicité et de récupération des données. Pour le moment, la transition des traditionnels réseaux sociaux vers les applications du fait divers et pour le moins laborieuse. Mastodon a tout de même enregistré une hausse significative de son nombre d'utilisateurs après l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk. 70 000 nouveaux mastonautes ont été enregistrés le 30 octobre dernier, mais j'ai vu des statistiques ce matin, c'est beaucoup plus que ça, d'après un tweet de Mastodon. J'ai vu des chiffres, c'était quand même... Alors, c'est un nouvel environnement, si ça vous intéresse, vous allez voir ça. On parle de « juice jacking ». Je ne connaissais pas ce terme-là en anglais. Les bornes publiques de recharge en USB toujours dangereuses pour la sécurité des smartphones. À l'aéroport ou dans de nombreux lieux publics, les stations de recharge USB pour les smartphones sont généralement prises d'assaut pour une très bonne raison et elles offrent une solution gratuite de recharge pour son smartphone. De quoi tenir jusqu'à la fin de la journée ou avant de décoller pour un long voyage. Mais les pirates rôdent. Nombreux sont les exemples où des utilisateurs se sont fait voler des données pendant la charge. Alors attention, il faut bien distinguer deux choses. Les prises électriques publiques utilisées avec son propre chargeur et son propre câble, il n'y a pas de problème, c'est pas à craindre. Le problème ici, juice jacking, c'est seulement les stations qui proposent de se brancher sur un port USB. Les hackers ont en effet la possibilité d'infecter les bornes, voire d'en installer déjà contaminées. Le résultat, c'est qu'il est très facile ensuite de craquer les smartphones qui se connectent à ces stations. Les pirates peuvent ensuite collecter toutes sortes de données personnelles, des informations de connexion, de cartes bancaires ou encore d'insérer un mouchard pour suivre la victime en toute discrétion. Oh là là! La pratique du juice jacking est bien documentée. Elle a été ainsi présentée dès 2011 durant une conférence du DEF CON. Depuis, les constructeurs ont pris les devants. Apple, par exemple, ont renforcé la sécurité de la connexion USB. Alors, l'iPhone ne monte plus comme un disque quand il est branché sur un ordinateur inconnu, ce qui n'empêche pas la recharge. Sur Android, il y a un système de permission qui a été mis en place il y a quelques années pour limiter le danger. Malgré tout, les possibilités de juice jacking existent toujours. C'est pourquoi il est important de faire attention. Alors, donc, on recommande, si vous vous rendez dans des lieux publics, apportez votre petit chargeur, votre fil, puis trouvez une prise murale et chargez-vous simplement là. Ça va être plus sécuritaire. Il y a eu un petit pépin le 31 octobre sur les serveurs d'Instagram qui ont empêché les utilisateurs de se connecter au service. Il leur indiquait que leur compte avait été suspendu. Alors, si vous avez rencontré ces problèmes-là, sûrement que ça a été réglé depuis. Un important volume d'utilisateurs voyait s'afficher un message indiquant que leur compte avait été suspendu et qu'ils ont un délai de 30 jours pour contester cette décision. Il s'agit d'un bug et non d'une véritable suspension de compte. D'après les constatations, les utilisateurs d'iPhone seraient les plus concernés par ce souci. Cette vague massive de suspension a eu comme conséquence une importante baisse d'abonnés sur les différents comptes de la plateforme. Alors, Instagram aurait ainsi perdu 1 million d'abonnés entre hier et aujourd'hui. On parle du 31 octobre. C'est quand même beaucoup. Petit bug pas très grave, mais il s'agit d'être au courant. Grand Theft Auto. Hein? On parle de GTA, pour ceux qui connaissent ça, les joueurs, 25 ans aujourd'hui, 25 ans. En octobre, Grand Theft Auto fête ses 25 ans. La date de sortie du premier opus est un peu floue, mais ce dernier est arrivé entre le 17 et le 21 octobre 1997. À l'époque, le mythique firme étoilée Rockstar Games ne portait pas encore ce nom. C'était BMG Interactive et DMA Design qui était la création de ce jeu qui allait devenir culte dans l'histoire de la pop culture. Effectivement. En 25 ans, ce ne sont pas moins que 17 versions de GTA, okay, qui se sont succédées sur une vingtaine de supports. Cela représente 4 générations de consoles, moins d'un jeu par année, sachant que le dernier opus GTA V est sorti le 17 septembre 2013. Alors, si vous allez voir dans l'article, vous allez avoir toutes les versions qui sont là. On parle de London, la version 3, Vice City, San Andreas, version 4, Chinatown, version 5, GTA Online, bref. 385, c'est le nombre de jeux vendus en 25 ans. Avec 17 jeux, la licence GTA s'est écoulée à plus de 385 millions, j'oublie le mot million, d'exemplaires. Le dernier opus GTA V est en grande partie responsable de ce succès mirobolant avec plus de 180 millions d'unités vendues. Mais on peut également citer GTA San Andreas, 27,5 millions, GTA 4, 25 millions, ou GTA Vice City, 21,6 millions, qui ont énormément contribué à ce succès. Avec plus de 7,5 milliards de dollars générés en 2018, GTA V est devenu le produit de versement culturel le plus rentable de l'histoire, plus rentable que n'importe quel film, série ou encore album de musique. Depuis, ce chiffre a sans doute dépassé la barre des 10 milliards de dollars, sachant que depuis 2018, GTA Online génère de plus en plus d'argent. C'est tout simplement atmosphérique. Il y a beaucoup de joueurs sur Twitch qui jouent encore à GTA. Cela fait 9 ans qu'aucun nouvel opus inédit de la série n'est sorti ou même annoncé. En début d'année 2022, Rockstar Games a confirmé travailler sur un nouveau jeu en précisant que le développement est en bonne voie, GTA 6. Et même le code a été volé par un jeune Britannique. 2 milliards, c'est le budget total que Take-Two Interactive, qui est la société propriétaire de Rockstar Games, serait prêt à mettre sur la table pour le développement total de GTA 6. En 2013, GTA V avait nécessité 265 millions pour son développement. Le jeu était devenu rentable en seulement 24 heures. Il avait généré 1 milliard de dollars en seulement 3 jours. C'est complètement fou. À ce jour, le jeu vidéo le plus cher de l'histoire est Red Dead Redemption 2. Ah, un autre titre de Rockstar Games qui aurait nécessité près de 944 millions pour son développement. Incroyable. On parle de Meta qui promet de révolutionner l'audio en ligne grâce à une nouvelle intelligence artificielle et un nouveau codec pour encoder le son. Alors que les volumes de données audio qui transitent sur les réseaux explosent, Meta sort de son chapeau un projet de recherche qui pourrait permettre sérieusement réduire les débits nécessaires et la bande passante consommée. Dans son petit nom N-Codec, le code audio de Meta a une originalité. L'intelligence artificielle y a une place prépondérante. N-Codec utilise des réseaux neuronaux convolutifs pour compresser et décompresser les fichiers sonores. La technique est complexe puisque la moulinette de compression travaille en trois temps. Donc le premier temps, c'est une première compression pour obtenir un premier jet à bas frame rate, qu'on appelle, qui donne la forme de longueur d'onde et la taille cible. Puis une quantification vectorielle du signal qui va savoir quelles sont les informations à conserver. Et pour terminer en bout de chaîne, la décompression du signal se fait là encore par le biais d'un réseau neuronal accordé sur celui de la compression afin de restituer un signal de grande qualité. Alors, on donne un exemple d'un fichier MP3, un fichier encodec, okay, compressé à 6 kbps, promet la même qualité audio qu'un fichier MP3 compressé à 64 kbps. Alors, c'est 10 fois plus petit. Le fichier soit 10 fois plus petit. Si les chercheurs de Meta affirment qu'il suffit d'un quart CPU pour effectuer la décompression en temps réel, ils disent que tous les cœurs CPU ne se valent pas. Les chercheurs ont testé leur codec sur un MacBook Pro, exemple de 2019, sans donner de plus de précision sur ce qu'il serait possible de faire avec un cœur ARM de smartphone. Alors, est-ce que ça va être possible d'utiliser ça sur un téléphone, sur un smartphone? Moi, je pense que oui, dans le futur. Là, présentement, c'est juste de l'audio, mais la vidéo est bien, évidemment, dans le communicateur de Meta. Le géant américain explique dans son blog que, bien que nos techniques ne prennent pas encore la charge de la vidéo, c'est le début d'une initiative qui pourra améliorer les expériences telles que la vidéoconférence, la diffusion en ligne de films et de jouer à des jeux avec des amis en VR. Et dans l'article, il donnait un exemple de justement si les gens qui avaient encore des connexions, ce qui doit être très rare, de 3G, qui n'ont pas le LTE, et qui est 3G limité à 12 kbps, bien, ça permettrait d'avoir des qualités sonores incroyables sur des petits réseaux qui, de toute façon, n'existent plus. Facebook News. Qu'est-ce qui se passe avec Facebook News? Il sera bientôt géré entièrement par des algorithmes. Oui, je me souviens de cet article. En 2019, Meta, anciennement Facebook, lance Facebook News, un onglet au sein de son réseau social entièrement dédié à l'actualité générale et locale. D'abord, c'était disponible uniquement aux États-Unis. Le service se déploie progressivement à travers le monde et arrive en France début 2022. Si une grande partie des articles partagés dans le fil d'actualité sont sélectionnés par des algorithmes, certains d'entre eux sont mis en avant dans les régions concernées. Ces derniers sont actuellement sélectionnés directement par une équipe de personnes dédiées, eux-mêmes gérées par une agence de curation de contenu localisée dans le pays concerné. Or, cela s'apprête à changer très bientôt, car Meta ne renouvellera pas ses contrats avec ces dites agences. L'information vient du média britannique Press Gazette, qui rapporte que son contrat avec Upday, l'agence qui gère la curation au Royaume-Uni, se terminera en 2023 et ne sera pas prolongé. Suite à quoi, les algorithmes de la firme Meta prendront définitivement le pas sur le travail effectué par la main-d'œuvre humaine. Meta a par la suite confirmé officiellement la chose en ajoutant que ce changement outre-Manche sera également effectif dans le reste de l'Europe. Alors, c'est difficile encore de dire quand la transition se fera dans nos contrées, mais il y a fort à parier que tel sera le cas une fois les contrats en vigueur expirés. On peut d'ores et déjà tabler pour 2024 au plus tard. On parle d'intelligence artificielle. On a peur de M. Musk avec Twitter, qui est un petit réseau comparativement bon, au gros comme Facebook. Mais l'intelligence artificielle, faut regarder ça aussi. On parle d'étudiants qui ont triché grâce à l'intelligence artificielle. Alors, si une intelligence artificielle est capable de générer un texte convaincant sur un sujet donné, hein, elle devrait être capable aussi de rédiger des dissertations. C'est justement ce que s'est dit un étudiant qui a témoigné sous son pseudonyme Reddit. Le gars, il s'appelle Innovate, souligné R-Y-E. Ce dernier a en effet décidé de faire ses devoirs par l'intelligence artificielle GPT-3 développée par OpenAI, Open Artificial Intelligence. Il a notamment expliqué que son université lui demandait de citer 5 bonnes et mauvaises utilisations de la biotechnologie. Il pose alors la question au générateur de texte. Le résultat est clairement là et le jeune homme qui consacrait 2 heures à préparer ses devoirs ne met aujourd'hui que 20 minutes. Il obtient d'excellentes notes. Alors que les établissements recourent déjà à des algorithmes anti-plagiat pour lutter contre la triche, eh bien, la production de cette intelligence artificielle a passé totalement inaperçue. Le texte généré par celle-ci est en fait original et ne correspond à aucune production antérieure. Dès lors, ce type de création ne pourra être détectable en utilisant des outils. Il n'empêche l'utilisation de ce type d'intelligence artificielle pour des devoirs faits à la maison pose forcément des questions d'éthique, c'est sûr. Quant aux étudiants, oui, c'est eux, ils attendent avec impatience la sortie de GPT-4, qui va être une intelligence artificielle qui sera encore plus perfectionnée et devrait produire de meilleurs textes. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur www.audiophile.com. Il y a même une section nommée « Docu », le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne soyez pas tristes, hein, car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Hein? D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.